Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. C'est la première émission de la rentrée et on a parlé de l'école dans cette première partie d'émission, notamment entre autres en raison de cela, l'école libre contre-attaque, le dossier de une de Valeurs Actuelles, où énormément de témoignages évidemment sur le développement de l'école libre et aussi sur les attaques dont elle fait l'objet, des attaques menées certes par l'extrême gauche mais aussi avec beaucoup de relais dans le bloc central. Va-t-on vers une deuxième guerre scolaire? Je pense que grâce à cet entretien, vous avez quelques éléments de réponse à cette question. Je suis toujours en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles et Étienne Darjac, éditorialiste bien connu des auditeurs de cette radio. Et nous accueillons Nicolas Boutin, chef du service VA Région. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous.
On vous entend très bien Nicolas. Vous avez sorti une enquête, un reportage sur le Rassemblement National et particulièrement sur les sénatoriales, puisque, on le sait, le Rassemblement National prépare ses sénatoriales avec énormément d'enjeux pour eux, puisque l'enjeu est très simple, avoir un groupe au Palais du Luxembourg, ce qui serait une première dans l'histoire de cette institution, un groupe RN est peut-être allié au sein du Sénat. Est-ce que, à la lumière de ce que vous avez vu et entendu, Nicolas, c'est un objectif réalisable? Ah, on a perdu Nicolas Boutin, la connexion lui fait défaut. Ça, c'est le problème de Nicolas, c'est qu'il va vous chercher l'information dans les coins les plus reculés de France, extrêmement mal couverts par le réseau. On va le retrouver dans quelques instants par téléphone. Le temps de poursuivre le témoignage de cet homme qui avait passé les concours de l'IUFM en 1996. Selon lui, les ministères sont depuis l'ère Hollande très marqués par l'idéologie LGBT. Les hommes notamment de cette orientation sont manifestement recrutés préférentiellement. Alors c'est là peut-être où il y avait un petit problème. Ils ne sont pas forcément recrutés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'idéologie LGBT, on l'a vu, l'idéologie progressiste a noyauté l'éducation nationale. C'est un fait. Et faut-il y trouver une explication au succès de l'école libre? Ça, c'est évidemment une question à creuser. On a retrouvé Nicolas Boutin. Nicolas.
Bonsoir. Effectivement, je suis là.
Voilà, c'est pour ça que je vous disais, on vous entend bien, c'était pour que vous me fassiez mentir dans la seconde. Nicolas Boutin, on va donc parler du RN et des sénatoriales. Est-ce que la constitution d'un groupe au Palais du Luxembourg est un objectif réalisable pour le Rassemblement National à la veille de ces sénatoriales?
Mais écoutez, en tout cas, ils veulent y croire, et en particulier la région clé pour pouvoir constituer ce groupe, ça va se jouer en Provence, à la Côte d'Azur. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que les élus de la région du RN se sont rendus à la Sainte-Baume dimanche dernier, et nous étions avec eux pour pouvoir échanger avec eux, connaître leur état d'esprit et leurs objectifs. Et première chose quand même, à la Sainte-Baume, c'est pas n'importe où, c'est le troisième lieu saint de la chrétienté. Vous savez, c'est là où Marie-Madeleine a fini ses jours après avoir converti la Provence. Il fallait au moins ça avant cette rentrée politique qui s'annonce marathonienne. Et donc avec cette élection dans l'élection, ce sénatorial qui se présente le dimanche 27 septembre prochain. Et donc le Rassemblement National espère bien créer la surprise, et donc en particulier dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, afin de rapporter un à deux élus au Sénat par département précité, et donc qui pourrait permettre pour la première fois de son histoire au parti Jordan Bardella de créer un groupe. Pour rappel, il faut 10 parlementaires pour pouvoir constituer son groupe au Palais du Luxembourg.
Alors, on rappelle évidemment que un sénateur s'élit grâce aux grands électeurs, donc principalement des élus locaux, uniquement d'ailleurs des élus locaux. L'enjeu est de...
Députés, conseillers régionaux, conseillers départementaux, voilà. Et maires et conseillers municipaux.
Voilà, donc en enlevant les députés, que des élus locaux. C'est une chose de convaincre effectivement les électeurs, c'en est une autre de convaincre les élus locaux, puisque les problématiques en réalité et les axes stratégiques ne sont pas les mêmes, Nicolas.
Effectivement, on ne parle pas de la même manière à un conseiller régional peut-être ou à un maire qu'aux électeurs sans mandat qui vont se décider, notamment par exemple pour l'élection présidentielle, même si il est vrai que avec les élections municipales qui viennent de se dérouler en mars dernier, il y a quand même un panel, le paysage politique français se retrouve aujourd'hui dans le panel de grands électeurs qui vont être amenés à se déplacer donc le 27 septembre prochain. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait croire au Rassemblement national qu'ils peuvent avoir toutes leurs chances de bousculer peut-être les traditionnelles baronnies ou en tout cas d'arriver à comment dire, à prendre le siège de sénateurs que l'on jugeait jusqu'à présent indéboulonnables. Je pense notamment dans les Bouches-du-Rhône, il y a Stéphane Ravier qui aura sa liste en indépendant, il y a qui est sortant, il y a Valérie Boyer qui aura sa liste Les Républicains qui est également sortante, et puis il y a une autre liste dans les Bouches-du-Rhône qui sur lesquelles et on va avoir un regard particulier, c'est celle conduite par Madame de Vézat, mais qui surtout en numéro 2 se positionne Renaud Muselier, le président de la région, qui avait a indiqué que en cas d'élection au Sénat, il quitterait la présidence de la région. Sauf qu'il voulait conduire une liste unitaire, mais vous l'avez compris, si Valérie Boyer a décidé de faire sa liste, Hervé Granier également a fait une autre liste, et on parle peut-être d'une troisième liste dissidente, eh bien, Renaud Muselier, qui pouvait espérer avoir compté sur 4 sièges en cas de liste unique, va être obligé de batailler jusqu'au bout pour se faire élire. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte...
Pour assurer, attendez, batailler pour un seul siège, donc le sien, et donc convaincre d'autres personnalités de venir sur sa liste, alors qu'elles n'ont aucune chance d'être élues, ce qui rend la chose un peu plus difficile, on suppose.
Et non, mais même, je vous arrête, Marc. Renaud Muselier, numéro 2 sur la liste.
Ah
il
oui.
a été obligé de laisser sa place à une sortante, et donc son propre siège n'est pas assuré. Et je vous laisse imaginer la recomposition que cela implique dans la région. On est à moins de 6 mois après la défaite de son allié Christian Estrosi à Nice lors des élections municipales. Mmh. Et si demain Renaud Muselier échoue aux portes du Sénat, quid de l'avenir au Conseil régional de Provence Côte d'Azur, sachant qu'il a déjà désigné son dauphin, et il n'est pas sûr que le dauphin accepte de revenir à l'anonymat relatif en cas de défaite de Renaud Muselier.
Ça risque de devenir une sorte de fuite à Varennes, en quelque sorte. Étienne Darjac.
Oui, bonsoir Nicolas, ravi de vous retrouver. Question, est-ce que cet éclatement un peu des voix et des listes à droite ou au centre, est-ce que ça va profiter potentiellement à quelqu'un comme Stéphane Ravier, ou au contraire ça le fragilise? On sait qu'il a déjà une liste RN contre lui. Et qu'est-ce qu'il en est?
Le danger dans le nombre de listes, c'est de s'éparpiller les voix. Vous savez, pour l'élection sénatoriale, se joue en un tour à la proportionnelle. Il faut donc plus de 300 voix pour acquérir un siège. Et puis pour avoir un second siège, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Hein, attention, on parle bien de ce département. Pour avoir un second siège, il faudrait être autour de 700 voix, ce qui est assez conséquent. Alors le RN semble déjà bénéficier d'une base solide pour assurer, si on peut dire, le premier siège. Et tout va se jouer donc sur le second. Est-ce qu'il va être plutôt pour Stéphane Ravier, plutôt pour le Florian Bravi, qui est numéro 2 de la liste RN? Quid également du côté des Républicains, s'il y a un partage des voix, il y aura forcément un partage des sièges, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, plus il y a de listes, moins il y aura de sièges pour tout le monde. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, ça joue en défaveur, notamment de Stéphane Ravier.
Alors, vous vous en sortez assez bien, Nicolas Boutin, parce que de toute façon, expliquer le fonctionnement des élections sénatoriales, c'est un casse-tête absolument terrible à chaque fois. Étienne, vous vouliez réagir? Non.
Non, non, pas particulièrement. Je crois que Valentin, à mon avis, Valentin a une question.
Va Valentin Gore,
oui.
Valentin Gore, c'est un spécialiste en plus des questions, des questions du Sénat, Valentin.
Non, mais il y a une chose à comprendre, je crois, pour les sénatoriales, c'est cette phrase. C'est la seule élection où les électeurs mentent plus que les candidats, parce que les petits maires.
C'est Jean-Claude Godin qui le disait.
Voilà, absolument. Là, je vois que vous avez tout compris. Les petits maires, évidemment, ils donnent leur voix un peu à tout le monde, parce que comme ils espèrent avoir le plus de subventions, alors ils essaient d'être copains un peu avec tous les gens de leur camp au moins. Donc surtout quand il y a des divisions, c'est très difficile de savoir vraiment qui va voter pour qui. Mmh. Et justement, pardon Nicolas, je vais vous poser cette question. Le RN peut aussi espérer de bonnes surprises, parce qu'on se souvient qu'il y a 3 ans, c'était un cru apparemment très difficile pour le RN, qui a quand même obtenu 3 sièges, dont un en Seine-et-Marne, où ils ont quasiment aucun élu, ce qui prouve bien qu'il y a des petits maires, des maires de petites communes, qui, comme tous les Français, peuvent être tentés par le vote RN, et on n'est pas à l'abri peut-être de sièges un peu improbables dans les départements où le RN n'a pas forcément une présence très nette.
Effectivement, Nicolas en fait, la campagne va se jouer sur tous ces élus sans étiquette, ces élus de villages ou de petites communes qui sont divers droite, qui sont divers gauche également pour certaines listes, et puis sans étiquette. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une élection très particulière et pour laquelle dans les médias vous en entendrez très peu parler. Pourtant, chers auditeurs, vous êtes principalement concerné, puisque évidemment les sénateurs votent les lois autant qu'à l'Assemblée nationale, donc elle est évidemment intéressante. La campagne se joue à coups de rendez-vous, de coups de téléphone, de fêtes de village aussi qui se font beaucoup cet été. On a pu voir les candidats défiler à chaque fête de village pour essayer de gagner en proximité et de se faire voir auprès des élus. Et on se retrouve avec une campagne donc qui se fait vraiment dans l'ombre et qui est pour lequel finalement dans chaque commune parfois le maire, alors même si c'est a priori de moins en moins vrai puisque le maire est de moins en moins propriétaire des voix de son conseil municipal, mais il y a souvent on se joue en disant eh bien j'accorderai 3 voix pour un tel, 4 voix pour un tel et puis la mienne pour telle liste, vous voyez.
Étienne Darjac, vous par exemple qui suivez l'actualité politique avec attention, c'est vrai qu'on a toujours un peu du mal à intéresser les gens aux élections sénatoriales. Est-ce que par exemple c'est les élections que vous suivez?
Oui, moi je suis les élections parce que comme tout jeune homme sur qui la malédiction de la politique est tombée un jour, je n'arrive pas à m'en passer, mais ça a fait tout le monde quelqu'un de très malheureux. Donc oui,
ce genre de passion avec laquelle on peut rarement animer un dîner, quoi, quelque part.
C'est ça. Non, évidemment, je suis, mais si vous voulez, oui, c'est évidemment très compliqué d'intéresser les gens. Déjà, on a du mal à les intéresser aux élections auxquelles ils votent. Alors, j'aime bien qu'une élection à laquelle ils ne votent pas, pour des élus qu'ils ne connaissent pas, qu'ils voient jamais, qui discutent des textes auxquels ils comprennent rien, c'est peine perdue. quand je vais. Donc c'est
vous avez plein de bonnes résolutions pour la rentrée, oui, ça fait plaisir. Vous avez beaucoup d'optimisme chez vous, Étienne.
Je suis très en forme. non, ce qui est, pourtant, c'est, l'élection va quand même envoyer un signal. Et peut-être que Nicolas aura des éléments à nous donner là-dessus. On est quand même sur une élection qui va se faire un peu discrètement sur un week-end. En plus, c'est le week-end de la venue du pape, donc en termes de bruit médiatique, ça va être costaud. Mais qui est quand même un peu la dernière élection avant la présidentielle. Et je pense que pour des partis comme le Rassemblement National, qui donc on peut légitimement dire que le début de campagne est un peu perturbé par différentes polémiques, différents désaccords. On peut légitimement dire qu'un beau résultat au sénatorial, un groupe 10, 12, 14 sénateurs serait une façon excellente de lancer la campagne.
Et Nicolas Boutin, donc on a parlé du sud de la France bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres départements sur lesquels le Rassemblement National pourrait faire des scores? On sait qu'ils sont très implantés dans le nord et dans les Hauts-de-France aussi. Ils peuvent compter que sur le sud ou ils espèrent d'autres éclaircies? On se rappelle qu'au dernier sénatorial, ils ont réussi à faire passer un sénateur en Seine-et-Marne, ce qui était totalement improbable au demeurant. Quel retour vous avez pu avoir?
Il y a le Nord, il y a le Pas-de-Calais, effectivement, il y a ces bastions déjà établis. En fait, ce qui va être compliqué pour le Rassemblement National, ça va être de comment dire, d'avoir des élus dans les endroits encore en conquête, si je puis dire. Je pense par exemple à la Sarthe avec la Flèche. Évidemment que le plein de voix, en tout cas les voix vont progresser par rapport aux dernières élections en 2020, bien parce qu'il y a plus d'élus désormais pour le RN. Cependant, ça va être encore un petit peu juste pour avoir des sièges. Donc il y a effectivement cet espoir pour eux dans le Nord, et il y a cet espoir l'Île-de-France n'est pas concernée parce que ce n'est pas tous les départements.
Absolument,
qui votent deux tiers cette année. Il ira et après, donc ça va beaucoup se jouer quand même sur l'Hérault, par exemple. Donc on reste dans le sud, hein. L'Hérault, et puis voilà, vraiment sur la Provence, la Côte d'Azur, parce qu'en fait, j'ai pas envie de vous dire des bêtises sur tous les départements, parce que il suffit que je vous dise un département en particulier qui ne vote pas, et dans ce cas-là, ma crédibilité est terminé pour jusqu'à la présidentielle.
On va préserver votre crédibilité, Nicolas Boutin. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer les élections sénatoriales et particulièrement les enjeux liés au Rassemblement national. On vous dit à jeudi prochain pour la prochaine émission. Valentin Gore, simplement pour conclure sur ces sénatoriales. Alors on sait que c'est Gérard Larcher qui préside le Sénat, que les LR sont majoritaires, les LR et leurs alliés du centre sont majoritaires dans la chambre du Palais du Luxembourg. Ça a peu de chances de changer. A priori, le rapport de force au Sénat ne va pas être bouleversé par ces élections.
Non, ça va pas changer cette fois-ci. Il est très probable que la majorité sénatoriale se réduise un petit peu, hein, puisqu'il va falloir quand même faire de la place, notamment à ces élus RN. Mais c'est vrai qu'on observe l'éclatement des listes dont parlait Nicolas dans les départements. On l'observe aussi au Sénat. Vous avez maintenant toutes sortes de groupes charnières, comme celui que présidait par exemple François Patriat, hein, le groupe macroniste au Sénat qui vient. François Patriat qui est mort il y a 15 jours, 3 semaines.
Quelques mois après avoir annoncé sa retraite. D'ailleurs,
absolument. Il allait prendre sa retraite justement au mois de septembre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits groupes comme ça au Sénat qui se constituent avec des élus qui ont envie de se mettre un peu à l'écart des grands partis. Et il y a deux départements dont on n'a pas parlé qui sont intéressants à surveiller pour ces élections. C'est la Sarthe, où Marie-Caroline Le Pen, sœur de Marine Le Pen, donc est candidate avec, pour l'anecdote, l'arrière-petite-nièce du général de Gaulle qui figurera sur sa liste. Et puis aussi,
qui a opportunément pris son nom de jeune fille pour l'élection,
oui,
d'ailleurs.
Voilà, exactement. c'est pas son nom de mariage. Et puis aussi la Vendée, avec Bruno Retailleau, qui est en ce moment en train de battre la campagne en Vendée, alors que me semblait-il, moi je pensais qu'il était candidat à une autre élection, mais bon,
vous avez raison, c'est un des faits curieux.
Voilà. C'est assez curieux, mais au moins il est au contact du terrain. Là, il rencontre beaucoup de maires vendéens, donc il risque pas de s'embourgeoiser à Paris pendant ce temps-là.
C'est intéressant, ça, Étienne Darjac, puisque il peut pas non plus renoncer à son mandat, parce que c'est quand même ce qui le légitime aussi d'un point démocratique, et en même temps quel signal envoyer, qui est de dire je ne crois absolument pas en ce qui va se passer en 2027, et donc je ménage mes arrières parce que l'aventure présidentielle finalement ne risque pas de me mener bien loin. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est un petit peu le message potentiellement qu'on envoie.
Pas comme ça. Alors c'est sûr que ça renvoie pas un message de confiance absolue, mais bon, d'une manière générale, Bruno Retailleau ne renvoie pas une image de confiance absolue.
C'est votre avis, que vous êtes libre de partager à nos auditeurs.
Non, moi j'interprète pas comme ça, j'interprète plutôt la campagne de Bruno Retailleau. Pour l'instant, est-ce qu'elle est, elle est discrète, elle est timide, elle intéresse pas grand monde pour l'instant. La pire des choses, ça serait de commencer par une défaite au Sénat, qui intéresserait définitivement en fait
ça, il n'y a pas de risque en vrai, pour le coup.
Il n'y a pas de risque, oui, mais oui. Je pense que c'est pour ça que Bruno Retailleau s'implique autant, c'est qu'il a besoin pour un peu se relégitimer dans ce parti qui veut toujours pas de lui, qui est toujours un peu en guerre contre lui, pour peut-être aussi essayer de sortir un peu de la nasse médiatique dans laquelle il a la peine à émerger. Je pense qu'il a besoin de s'offrir une victoire nette, franche, éclatante sur son fief pour lancer la campagne présidentielle.
Merci Étienne Darjac, et on accueille l'avocat Pierre Gentillet. Bonsoir maître.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, on l'a dit. Vous avez aussi été candidat pour le Rassemblement national aux élections législatives de 2024 dans le Cher. Vous avez été candidat au municipal à Argenton-sur-Creuse. On voulait revenir avec vous, maître, sur cette ce premier débat lancé peut-être un peu malgré lui par le Rassemblement National, interdire le voile dans l'espace public, c'est une proposition de Marine Le Pen réitérée à l'antenne par Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme et vice-président du groupe. Première question, Pierre Gentillet, est-ce que comment vous accueillez déjà cette proposition de Marine Le Pen? Est-ce que vous la trouvez de bonne aloi et réalisable dans un second temps?
Alors, de bon aloi, oui, c'est évident. Par ailleurs, je voudrais quand même rappeler à tout le monde que ce n'est pas une surprise. Ou alors, s'il y a une surprise, c'est qu'on a une candidate qui défend les mêmes positions depuis des années, et en l'occurrence sur la question du voile. Donc, on a simplement une position constante du Rassemblement National là-dessus qui est rappelée. Et maintenant, sur la faisabilité, c'est pareil. Je ne vois pas non plus où est le sujet. C'est une bonne chose, quelque part. Je me réjouis que ce sujet soit aujourd'hui sur le débat public et sur le début de cette campagne présidentielle, puisque, je crois que vous l'avez dit, on entre vraiment dans la campagne présidentielle à partir de septembre, puisque la majorité des candidats sont connus. La faisabilité de cette interdiction, c'est simplement une faisabilité par la voie constitutionnelle. On l'a expliqué, il y a une proposition de révision constitutionnelle de, je crois, une trentaine d'articles qui sera soumise à référendum aux Français par le biais de l'article 11 de la Constitution, et les Français décideront, trancheront, et puis voilà. Alors, pour moi, c'est tout naturel. Hein.
Avant qu'il y ait du coup un référendum.
Je pense qu'il faut aussi, parce que je vois effectivement qu'il y a quelques chroniqueurs, quelques polémistes éventuellement qui s'agitent, mais je les invite quand même à regarder les sondages. Hein. On a une majorité de Français.
69% dans un sondage Opinion Web.
Pour des raisons qui peuvent être des raisons très diverses, la position que soutient le Rassemblement National, c'est que le voile, effectivement, c'est le parangon de l'islamisme politique. Mais on peut tout à fait aussi rester sur une dimension culturelle qui, c'est vrai, dérange de plus en plus les Français. Et je pense qu'il faut les comprendre et qu'il faut les entendre. Voilà,
oui.
Quand on dit qu'il y a certains quartiers qui ont changé, qu'il y a certains endroits de France qui ont changé, c'est aussi visuel, c'est aussi des pratiques, ce sont aussi des modes de vie, des mœurs, et aussi une certaine pratique de la religion. Voilà.
Oui,
quand
alors...
on a une religion qui n'est pas là depuis 2000 ans, eh bien, si 2000 ans, elle est 1500 ans pour être précis, on essaye peut-être de le faire avec une certaine discrétion, a fortiori dans l'espace public. C'est simplement le rappel de la loi de 1905, la loi sur la laïcité, au fond.
Alors, ceci dit, ce que vont rétorquer certaines personnalités à Marine Le Pen et au Rassemblement National, c'est que maintenant, il y a plus de 6 millions de musulmans en France, dont les deux tiers ne porteraient pas le voile. Et on a eu cette sortie notamment du maire de Meaux, Jean-François Copé, qui disait « Aujourd'hui, c'est infaisable, il y a 20-30 ans éventuellement. Maintenant, en fait, si vous voulez, l'islamisation, en tout cas la présence d'une part non négligeable de la population française qui est aujourd'hui musulmane, fait que ce genre de projet de loi crisperait et cliverait pour rien et pourrait même jeter l'huile sur le feu, en quelque sorte. »
Mais encore une fois, il n'y a pas à cliver ou quoi que ce soit, il y a simplement en fait à respecter la loi. Et en l'occurrence, c'est même plus qu'une loi ici, ce sera la Constitution française, d'accord, avec une loi d'application sans doute. Donc à partir du moment où on interdira le voile, je parle au futur et futur proche, j'espère, où on interdira le voile dans l'espace public, eh bien les citoyens français et pas que, tous les citoyens sur le sol français, je vous rappelle que la loi, elle ne s'applique pas qu'aux Français, elle s'applique à tous ceux qui sont sur le sol français, eh bien, ils s'adapteront à la loi ou alors ils iront trouver un pays de leur choix où il y aura une pratique de la religion qui conviendra à leurs convictions profondes. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut poser le débat. En France, c'est pas comme ça que ça se passe. En France, on ne voile pas les femmes de cette manière. Ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas dans notre coutume. Et puis, par ailleurs, je le dis, c'est aussi une revendication religieuse qu'on impose dans l'espace public et qui contribue peu à peu à un remplacement culturel évident.
Et ceux qui disent pourquoi seulement le voile et pas aussi la croix, la kippa, qui sont aussi des signes extérieurs, des signes ostensibles, des signes religieux ostensibles entre guillemets, pour créer une égalité devant la loi. Vous voyez, toutes les religions se valent quelque part. Enfin, vous voyez la question.
Alors, toutes les religions se valent, c'est un propos syncrétique que vous avez là.
L'opinion est syncrétiste.
Mis à part, non, mais bien sûr que les opinions syncrétistes, je faisais une boutade, mais boutade mise à part, ce que je dis, c'est que je pense que tout le monde peut comprendre qu'entre une croix que l'on porte autour de son cou et un voile, et peut-être même un voile intégral, ce n'est pas le même signe. ce n'est pas le même niveau d'ostensibilité, si vous voulez. Mmh. Donc, et puis par ailleurs, je le redis encore une fois, c'est un point important, ça ne correspond pas à nos mœurs, à nos coutumes, à nos traditions, à notre façon de vivre, à la France. Je pense que cet argument-là, il doit aussi être dans le débat public. Cela ne nous correspond pas. Je pense qu'il faut bien le marteler, cet argument. Je pense qu'on ne l'a pas assez attendu. Et je pense qu'au fond, sans me faire le porte-voix de qui que ce soit, mais je pense que c'est ça ce qui est aussi partagé profondément par les Français. Ce n'est pas nous.
Voilà. Alors, on a aussi, donc ça c'était pour l'argument de fond, il y a eu aussi évidemment un débat stratégique, entre guillemets, est-il pertinent de commencer un petit peu, alors en plus de commencer une campagne présidentielle, on rappelle que le Rassemblement National fait sa rentrée officielle ce week-end, donc on n'était même pas justement sur une rentrée politique encore, de lancer directement un débat comme ça dans l'espace public, un débat qui, en tout cas, qu'on le veuille ou non, va cliver, alors qu'en soi, un candidat à l'élection présidentielle devrait rassembler l'ensemble des Français, Pierre Gentillet. Est-ce que même d'un point de vue strictement stratégique, politiquement, le RN a eu raison de lancer ce débat-là?
Mais attendez, qu'est-ce que c'est un débat qui n'est pas un débat clivant? C'était pas un débat, je veux dire. Ce que vous dites est intéressant parce qu'en fait, ça traduit, peut-être que vous faites l'avocat du diable, ça traduit un état d'esprit malheureusement bien français et qui touche beaucoup les médias mainstream. On dit qu'il ne faut pas cliver, il ne faut pas diviser. Mmh. Mais attendez, le propre d'un débat, c'est de poser des sujets sur la table et des sujets qui fâchent. Oui, ce sujet, il fâche effectivement une partie de la gauche et une partie de la population en France. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas le poser? Bien sûr que si, on doit le poser. Et par ailleurs, quand on dit qu'il clive, c'est faux. Vous avez évoqué les sondages tout à l'heure. Une majorité de Français est opposée au voile, de la même manière qu'une majorité de Français est opposée à la politique migratoire, parce que le voile, si vous voulez, cette pratique, elle n'a pas poussé comme ça dans les monts du Cantal ou dans le Berry, si vous voulez. Je pense qu'il faut bien relier ça aussi au phénomène migratoire. Donc, encore une fois, quand on échange avec les Français, quand on regarde les sondages, les études d'opinion, on constate que ce n'est pas un sujet clivant, ou en tout cas aussi clivant qu'on le dit, c'est un sujet de consensus. Et quand bien même, moi, je suis pour qu'on clive, je suis pour que dans un débat, à fortiori un débat pour une élection présidentielle, on pose tous les sujets, et après, justement, une fois que tous les Français ont tous les arguments sur la table, eh ben on tranche. Par la voie du suffrage.
Étienne Arjac, vous qui êtes berrichon, si vous avez une question à poser à Pierre Gentillet.
Je remercie Maître Gentillet d'avoir confirmé que l'islam n'était pas dans le Berry, j'étais un peu inquiet. Question, vous avez fait le lien avec l'immigration. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous comprenez la partie de la droite qui critique cette mesure, pas tant parce qu'elle serait clivante ou parce qu'elle serait politiquement maladroite, mais au contraire en disant... Finalement, on traite le symptôme plutôt que traiter la cause de la maladie.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire encore une fois. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait... Moi, vous avez vu, j'ai relié effectivement cette pratique du voile avec la question migratoire, mais on peut tout à fait affronter les deux de face. Je ne vois pas où est la contradiction. Et d'ailleurs, dans le programme du Rassemblement National, il est bien dit à la fois qu'il s'agit de lutter contre les politiques migratoires et de mettre fin au laxisme migratoire et de mettre fin au droit du sol, etc., au regroupement familial, et en même temps de lutter effectivement contre cette pratique qui, je le dis, est une pratique qui est étrangère à nos mœurs, étrangère à nos coutumes et qui témoigne effectivement d'un fondamentalisme religieux dont nous ne voulons pas en majorité. Point. Et ces deux phénomènes-là, nous les affrontons de face, de manière cohérente. De ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a rien à reprocher au Rassemblement National.
Merci beaucoup Pierre Gentillet. On a évoqué les élections sénatoriales tout à l'heure. Vous étiez candidat dans l'Indre à Argenton-sur-Creuse. Est-ce que vous-même, vous êtes partie prenante dans cette campagne sénatoriale et quel est selon vous l'objectif réalisable de votre parti pour ces élections?
Alors, je ne suis pas candidat aux élections sénatoriales dans l'Indre. Je soutiendrai et je voterai en tant que grand électeur pour Mylène Zunch, qui est la tête de liste pour le Rassemblement National dans le département. Et j'espère effectivement que nous ferons le meilleur score possible, puisque ces élections sénatoriales, je vous entendais effectivement un petit peu débattre avant, ce sont les élections les plus difficiles pour le Rassemblement National, parce que ce sont des élections de grands électeurs, et ce sont des élections qui avancent progressivement, mais lentement, mais progressivement, retenons tout de même, dans le temps, puisque ce sont des élections qui mobilisent des grands électeurs. J'ai bon espoir que nous arrivions d'ici fin septembre, puisque c'est la date du scrutin, à une, ou alors uniquement peut-être le premier tour, je ne veux pas dire de bêtises, hein, bien évidemment, je vais voter, donc je vais vous renseigner sur les modalités, mais que nous arrivions à un groupe au Sénat pour faire entendre la voix des Français. Je pense que c'est l'objectif qu'on s'est publiquement donné. Voilà.
Merci beaucoup Pierre Gentillet, avocat et élu d'opposition à Argenton-sur-Creuse pour le Rassemblement National. Merci d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions sur sur l'affaire du voile, non, sur ce lancement, sur ce débat public sur le fait ou non de d'interdire le voile dans l'espace public. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous, chers merci auditeurs, puisque l'émission continue. Il est 18h45. Vous êtes avec nous jusqu'à 19h30. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez participer à cette émission en posant vos questions à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr ou à notre standard. On va revenir. La politique n'est pas terminée, puisque à 19h, nous recevrons le politologue Guillaume Bernard, avec qui nous ferons un premier point sur toutes ces rentrées politiques qui ont émaillé perturbé presque la rentrée scolaire, puisque cette campagne présidentielle a commencé extrêmement tôt. On en parlait en début d'émission avec Valentin Gore. Il y a quand même un fait d'actualité qui a un petit peu attiré notre attention. C'était la rentrée aussi pour elle. Il y a eu cet événement autour. Alors, on va expliquer à nos auditeurs. Est-ce que vous savez qui est l'ENA Situation? L'ENA Situation, c'est une influenceuse suivie par des millions d'abonnés. Et alors, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en filmant ses vacances, en quelque sorte, en faisant ce qu'on appelle des vlogs, et en filmant ses vacances. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable, puisque les services publics, puisque l'audiovisuel public a payé une forte somme, on parle de plus d'un million d'euros, pour diffuser la soirée que l'ENA Situation a organisée pour ses abonnés, une soirée pendant laquelle, eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose. Elle a dialogué un petit peu avec son public, elle a monté un réel sur son téléphone devant son public, en les faisant interagir sur le choix des chansons qui l'accompagnaient. En bref, certains y ont vu l'éloge du vide, d'autres y ont vu de l'argent public jeté par les fenêtres, d'aucuns y ont vu un symptôme de notre époque, à voir vos yeux écarquillé, Étienne Darjac, vous n'avez pas la moindre idée de ce dont je suis en train de parler.
Si. Malheureusement pour moi, oui, je vois très bien.
Valentin Gore, qu'est-ce que ça représente pour vous, cet épisode audiovisuel?
Eh ben rien.
Et culturel.
Voilà, vous l'avez dit. Non, mais c'est tout à fait vrai. Il y a un culte, c'est vraiment le vide, le néant. Bon, c'est une jeune fille qui a l'air tout à fait sympathique. Mais malgré tout, il faut bien le noter. Je réécoutais l'autre jour une archive de Philippe Bouvard qui parlait de cela. Philippe Bouvard qui a commencé sa carrière au Figaro dans les années 50 en fréquentant des gens comme Jean Cocteau ou Salvador Dali, Brigitte Bardot même un peu plus tard, parce que d'aucuns ont dit que l'ENA Situation est la Brigitte Bardot de notre époque. Et je crois que c'est quand même intéressant, parce que Philippe Bouvard disait l'époque a cassé les monstres sacrés parce qu'elle n'en avait plus besoin. Et de fait, on voit bien qu'il n'y a plus du tout de mythe. De grands acteurs français aujourd'hui, le plus grand, c'est Jean Dujardin, qui est un bon acteur. Enfin, c'est pas Alain Delon, bien sûr. Et tout ça vaut dans tous les domaines, dans la politique, même un peu dans le sport, quoi qu'un peu moins. Mais il y a une espèce de grand vide avec des personnages du passé, même d'un passé récent, qui ne sont pas du tout remplacés, et avec une jeunesse, effectivement, qui regarde. C'est une sorte de télé-réalité. Alors, ça m'amuse, parce que le service public se glorifie depuis toujours de dire « nous, on diffusera jamais de télé-réalité ». Eh bien, qu'est-ce que ce spectacle, sinon une télé-réalité ? C'est assez affligeant. Et quand on voit le service public qui donne des leçons en permanence sur la culture, sur la soi-disant exception culturelle qu'il représente, exception culturelle, mon œil, voilà, c'est minable.
En tout cas, c'était devant 20 000 personnes à l'Accor Arena, diffusé par France 2. Et en effet, on a entendu les arguments lorsque la chaîne C8, par exemple, a été fermée. On a entendu pendant des années les critiques visant les émissions animées notamment par Cyril Hanouna, où on déplorait de la vulgarité, du divertissement à outrance, des excès, etc. Et on est rassuré de voir que le service public, finalement, a obtenu la suppression de C8, mais... c'est dit que finalement faire de l'audience c'était pas si mal, en quelque sorte, parce que malheureusement ou heureusement, oui, je laisse évidemment chacun en juger, ça marche d'un point de vue audience, l'ENA Situation, une des personnalités les plus connues aujourd'hui de la jeune génération. Son livre qui est assez vide pour l'avoir feuilleté, a été vendu lui aussi à des dizaines de milliers d'exemplaires. C'est, ce qui est fabuleux, c'est que c'est une entreprise lucrativement extrêmement rentable, Léna Situation, Étienne Darjac.
Oui, alors je n'ai pas le détail de ses comptes en banque, mais j'imagine qu'ils ont beaucoup de choses à envier aux miens. Au contraire, que les miens ont beaucoup
Ou alors expliquez-moi votre carrière professionnelle, Étienne, parce que ça m'intéresse.
J'avais eu le très grand plaisir de découvrir Léna Situation grâce à Frédéric Becbédé, dont je suis un lecteur fidèle.
Ça pourrait susciter un débat, ça aussi,
culturel, Étienne Darjac. Je ne dis pas que tous ses livres sont exceptionnels, mais je lis ses livres à chaque fois qu'ils sortent depuis plusieurs années. Et je lis surtout ses chroniques. Et il avait fait une chronique sur la sortie de du livre de Léna Situation il y a quelques années maintenant.
Une chronique assassine.
Qui avait, non, pas particulièrement, enfin oui, mais je veux dire une chronique littéraire, quoi. Et qui avait suscité, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, une polémique absolument absurde. Où en fait, Becbédé disait à très juste titre, et je dis ça en n'ayant pas lu le livre, mais j'ai pas besoin de ça pour le dire, que le livre est absolument creux, vide, intérêt zéro, littérairement, tout ce que vous voulez. Et on avait reproché à Becbédé, pas tellement de ne pas avoir aimé le livre, on avait reproché à Becbédé de ne pas avoir aimé le livre d'une influenceuse, femme, métisse, progressiste,
on lui a reproché d'être un vieux con, quoi, voilà, en fait, en quelque sorte, un mal blanc de surcroît.
Et je crois que ça dit tout de ces nouveaux influenceurs et de la disparition des monstres sacrés, comme vous disiez, Valentin. Quand on avait les Bardot, les Delon, cette génération-là, évidemment, c'était des gens qui étaient connus pour ce qu'ils étaient, pour l'image qu'ils renvoyaient, pour leur charisme, etc. Mais c'était des gens qui, en tout cas, avaient une carrière, qui produisaient des films, des chansons, des livres, de la politique, si vous voulez. Les stars d'aujourd'hui, à l'exception peut-être des sportifs, ce sont des gens qui ne produisent rien d'autre que de l'image d'eux-mêmes. Et ils ont même pas l'intermédiaire d'un réalisateur qui se sert de cette image pour dire quelque chose, pour le dire joliment, pour le dire profondément. C'est purement des gens qui se filment dans leur miroir, qui postent ça sur le réseau. Et c'est profondément navrant. Je sais pas très bien comment conclure ça, il y a plus de propos, quoi. C'est juste, on est une star parce qu'on est une star.
Ce qui est dingue, Valentin Gore, c'est que pendant des décennies, alors avec l'émergence de la télévision et des stars un petit peu fabriquées, il y avait quand même ce côté où il y avait l'œuvre de l'artiste d'un côté et la presse à scandale de l'autre. C'est-à-dire que moi, je me rappelle des émissions de télé absolument mythiques de Thierry Ardisson où le directeur de Voici se retrouvait face à face à d'anciennes victimes et où il se faisait copieusement mais insulter de manière extrêmement sauvage sur le plateau. Et à l'époque, vraiment, il y avait l'œuvre de l'artiste et ce qu'on appelait la presse de caniveau, en fait, tout simplement, là, des ragots, des histoires de mœurs réelles ou supposées. Et aujourd'hui, on a l'impression que justement, c'est que il ne reste plus que la presse de caniveau qui est devenue l'œuvre, en fait, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'en
Non pas, je précise non pas que Léna Situation ait une vie privée particulièrement scabreuse, mais ce que je veux dire, c'est la seule chose qui désormais intéresse les gens, en réalité, c'est la vie privée de la personne et ce n'est plus son œuvre, puisque on rappelle que Léna Situation en fait, se fait connaître pour filmer ses vacances d'été et les partager
Alors, c'est en même temps pas totalement nouveau, parce que finalement, la première à avoir fait ça, c'est la fameuse et déplorée Loana. Dans cette émission du Loft Story, donc on reprend ce modèle là autour du vide vraiment, et puis surtout ce qui est nouveau, c'est qu'il faut vraiment aucune aspérité et que toutes ces petites vedettes, influenceurs, machin, qui sont projetés comme ça sur le devant de la scène, ce sont des gens dont la parole est toujours pesée au trébuchet, qui font surtout attention de jamais rien dire de polémique, qui en fait n'ont aucun propos, qui pourraient être amusants, qui pourraient créer un personnage parfois avec un peu d'aspérité. Non, c'est une jeune fille qui sait très bien ce qu'elle fait, qui est dans un... C'est aussi l'américanisation de la société, hein, parce que tout ça, c'est elle reprend avec 6 mois de retard ce que font ses petites copines américaines, autour de ces fameuses tendances qui montrent aussi un comportement d'une jeunesse qui est aujourd'hui totalement moutonnière, et qui à la rigueur n'a même pas ce qu'il faudrait un petit peu, c'est quand même un petit instinct de rébellion quand même. À 20 ans, on se dit qu'on a autre chose à faire que d'aller à Bercy applaudir Machine qui fait Dieu sait quoi. D'ailleurs, effectivement, j'ai toujours pas compris ce qu'elle avait fait à Bercy à part parler d'elle. Oui. Ce qui là aussi montre le narcissisme d'une grande partie d'une de cette jeunesse, hein, jeunesse bourgeoise de gauche quand même. Hein.
Oui, et alors ce qui est fabuleux, juste pour terminer sur ce public, c'est que moi, dans mon esprit, quand je regardais les images, je me disais, bon, on va être sur des petites adolescentes de 15-16 ans qui ont des idoles, mais après tout, comme toutes les adolescentes du monde à travers les âges. Et moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est l'âge des participantes, principalement féminine mais pas que, face à des jeunes filles qui étaient plus autour de 20-25 ans en réalité, c'est-à-dire des personnes qui sont adultes, qui sont soit qui travaillent, soit qui sont en train de terminer leurs études. On n'est pas sur une espèce de frénésie adolescente en quelque sorte, ou post-adolescente quoi, on est sur des personnes adultes qui voient une idole qui n'a pas grand-chose à leur vendre autrement qu'elle-même en quelque sorte. Étienne Darjac.
Oui, je suis navré, mais je n'ai absolument rien d'autre à dire. Ce sujet me déprime profondément. Oui, je suis en train de lire un livre de Jean Lartégui.
Et vous voulez nous parler de Jean Lartégui plutôt,
exactement. Qui parle de mecs dans les années 60 qui sont dégoûtés par leur époque et qui ne se reconnaissent pas dans la population. Et ben moi, je suis d'accord avec les mecs qui sont dégoûtés par leur époque dans les années 60.
Et vous, vous êtes dit comment Jean Lartégui a pu m'interviewer dans les années 60 parce que je le lis.
Donc, autant vous dire que les situations, si vous voulez. Je trouve que pour la rentrée que vous m'offrez est compliquée là.
Bah, ça fait justement un miroir assez triste, Étienne Darjac. Alors juste pour terminer sur Léna Situation, vous parliez justement de la nécessité d'avoir un discours et une image totalement lisse. Elle a quand même été touchée par une polémique puisque on se rappelle de alors Gisèle Journeau, la fondatrice d'une agence d'influence, grande amie de Léna Situation, avait été victime d'une vague de cyberharcèlement orchestrée par l'eurodéputé Rima Hassan. Et on l'a vu du jour au lendemain, sur fond de conflit israélo-palestinien, bien évidemment, parce que Gisèle Journeau est, je crois, proche d'Israël. Ouais. Et du jour au lendemain, elle s'est fait lâcher par tout le monde, y compris par Léna Situation, qui, justement, pour ne pas prendre position sur un sujet aussi clivant, a préféré lâcher tout le monde et se tenir très éloigné de tout ça. Ça révèle justement une espèce d'épée de Damoclès permanente qui traîne en réalité.
Ah oui, bah bien sûr, parce que quoi qu'on pense de ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est absolument incroyable, quoi. C'est vraiment la dystopie. Alors là, c'est la dystopie. J'ai même vu, je crois pas que ça soit Léna Situation, c'est un autre, parce que s'il faut voir quand ils sont en vacances, c'est des espèces de mises en abîme, parce que vous êtes au bord de la piscine, alors il y en a un qui filme, l'autre qui filme. Enfin, ils sont tous en train de se filmer. C'est même lunaire. Et on voit certains de ses petits camarades qui ont flouté cette jeune fille. C'est-à-dire, vous êtes au bord de la piscine, vous avez au bout d'un moment un tas de pixels qui passent.
C'est les procès de Staline.
Non, mais c'est les procès de Staline, absolument. Ça a été d'ailleurs relevé, je ne sais plus dans quelle émission. Enfin, on croit rêver, quoi, avec là aussi ce comportement moutonnier où finalement, tout d'un coup, ah bah oui, il y a une polémique. On ne sait même pas pourquoi et donc on la lâche en pleine nature. C'est lunaire.
Vous êtes bien à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault et je suis en plateau avec Étienne Darjac et Valentin Gore. Nous allons diffuser tout de suite un appel au don de votre radio, suivi d'une très courte pause. Puis nous retrouverons le politologue Guillaume Bernard, avec qui nous reviendrons sur cette rentrée politique et sur cette ébauche d'élection présidentielle, puisque les politiques étaient très pressés et sont rentrés très très tôt de vacances. A tout de suite.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Vous êtes bien sur Radio Courtoisie, à l'antenne, dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut. Nous sommes encore ensemble pour une petite demi-heure et nous allons la passer en compagnie d'Étienne Darjac et de Valentin Gore, bien évidemment, qui sont restés sur le plateau. Et nous accueillons Guillaume Bernard. Guillaume Bernard, vous êtes politologue et professeur d'université à l'ICS. Bonjour, bonsoir à vous.
Bonsoir Marc et bonsoir à tous les auditeurs.
Vous avez écrit de nombreux essais, notamment sur la droitisation de la vie politique, le fameux mouvement d'Extrogir. On va parler évidemment de cette élection présidentielle, Guillaume Bernard, puisque on nous dit une élection présidentielle, c'est un temps finalement très court, et en réalité, on s'est aperçu que dès la fin du mois d'août, la classe politique s'est sentie extrêmement pressée. On a tout le monde en train d'enchaîner sa rentrée. On a même Raphaël Glucksmann, tiens, on va commencer par la gauche, on va commencer par le sinistrogirisme. on va commencer par la gauche. Raphaël Glucksmann a officialisé sa candidature à la primaire de la gauche en vue de l'élection présidentielle le dimanche 23 août. On sait que le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a suivi, que Ségolène Royal, elle aussi, sera candidate à cette primaire, ainsi que Philippe Brun, le député de l'heure Philippe Brun, ainsi que Jérôme Guedj, et seul François Hollande, pour l'instant, refuse de passer par cette primaire. L'enjeu est très simple de toute façon, trouver un candidat crédible pour à la fois battre Marine Le Pen, qui sera probablement au second tour, et surtout défier Jean-Luc Mélenchon et mener cette bataille, au fond, pour la survie de la gauche non mélenchoniste. Guillaume Bernard.
Oui, alors vous avez raison, la campagne commence relativement tôt, peut-être un peu plus tôt que les autres fois, parce que tout le monde sent qu'effectivement c'est une élection qui pourrait entrer dans l'histoire, un peu comme 1981 où François Mitterrand, pour la première fois, la gauche gagne l'élection présidentielle sous la Ve République. Bah là, pour la première fois sous la Ve République, quelqu'un ayant le nom de Le Pen pourrait l'emporter. C'est en tout cas ce que nous disent pour l'instant les sondages, sachant que les sondages de deuxième tour aujourd'hui ne valent pas grand-chose tant qu'on ne connaît pas l'état réel, je dirais, des rapports de force. Alors, pour ce qui est de la gauche et modérée, vous avez raison. C'est exactement l'enjeu qui se pose. Est-ce que c'est le rapport de force au sein de la gauche. Est-ce que c'est la gauche radicale derrière Jean-Luc Mélenchon qui préserve donc pour l'instant son unité parce qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui va sortir devant la gauche modérée ou l'inverse. C'est le véritable enjeu. À mon sens, c'est plus, alors pour le coup ils ont raison parce qu'ils sont dans un enjeu de premier tour et non pas de second tour, c'est le rapport de force interne à la gauche, sachant que le Parti Socialiste était devenu dominant à gauche par rapport au Parti Communiste à partir du milieu de la fin des années 70. Depuis la libération jusque dans le milieu des années 70, c'était la gauche radicale qui était représentée par le Parti Communiste qui était dominante. Et là, on retrouve un peu la situation que l'on avait donc eue pendant les Trente Glorieuses. Le seul moyen qu'ils ont effectivement de pouvoir espérer jouer du coude à coude avec Mélenchon, c'est d'avoir une unité de candidature, c'est d'avoir un seul candidat, et ça passe donc par une primaire.
Oui, et il y a aussi une nouveauté effectivement, c'est que le Parti Socialiste se remet très difficilement de la campagne présidentielle de 2022, où Anne Hidalgo, leur candidate, n'avait fait que 1,5%. Est-ce que aujourd'hui le Parti Socialiste ou un candidat social-démocrate, mais il sera soit du PS, soit ce sera le président de place publique Raphaël Glucksmann, est-ce qu'un candidat de gauche peut espérer exister politiquement sans justement cette poussée qui a pu être Jean-Luc Mélenchon, cette dynamique lancée par la NUPES puis par le Nouveau Front Populaire? En d'autres termes, est-ce que la gauche social-démocrate peut exister entre le bloc central et sans coalition de gauche, en fait, tout simplement, Guillaume Bernard? On a perdu Guillaume Bernard. Laissez-nous quelques instants, le temps de le joindre par téléphone. C'est en tout cas la question que se posaient les socialistes à Blois, Valentin Gore, puisque Valeurs Actuelles y était, et il y avait, c'est vrai, une espèce de une espèce d'interrogation permanente, c'est est-ce qu'on a les ressources suffisantes pour s'opposer à Jean-Luc Mélenchon et pour exister de manière autonome ?
C'est toute la question. En effet, vous y étiez, Marc, à Blois, avec la candidature Hollande. Je crois que vous avez constaté que c'était pas forcément la grande folie autour de notre ancien président. Je dois dire que c'est un peu lunaire, là aussi, ces primaires socialistes avec M. Glucksmann, avec Ségolène Royal qui revient, Philippe Brun qui essaie de vendre une gauche soi-disant populaire, ouais. Vous avez cité Jérôme Guedj, le candidat des Gilets jaunes, alors on ne sait pas pourquoi, mais enfin très bien, et on se dit, mais tout ça rime à quoi ? Avec un ticket d'entrée, alors ça j'ai trouvé que c'était vraiment savoureux, 10 à 15 euros pour voter à la primaire du Parti Socialiste. Alors ça, ça s'appelle vraiment, ceux qui vont y aller, ça s'appelle vraiment aimer être arnaqué, hein, parce que après, pardon de ce discours un peu poujadiste, mais après tous ces impôts déjà qu'on a eu de la part du PS, et il faut encore leur donner de l'argent. C'est, voilà.
Est-ce que c'est pas une méthode pour empêcher les insoumis de voter et de fausser les comptes ?
c'est un bon argument.
Moi, c'est ce que je ferais à leur place.
C'est un excellent argument, mais c'est vrai que c'est toute la question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait un prix suffisamment haut pour dissuader les petits rigolos, et en même temps on se prive aussi d'un nombre considérable de votants et donc d'une dynamique.
Est-ce qu'il va pas y avoir beaucoup de gilets jaunes là qui vont aller voter quand c'est à 15 euros?
On parle du Parti Socialiste, hein, se priver de beaucoup d'électeurs.
Pensez aux millions de personnes qui n'ont pas les moyens de mettre 15 euros pour voter pour Raphaël Glucksmann ou Olivier Faure, Étienne Darjac, s'il vous plaît. Pardon. Et je crois qu'on a retrouvé Guillaume Bernard. Guillaume Bernard, vous êtes bien avec nous?
Absolument. Pardon pour ce problème technique dont je suis innocent, mais enfin, c'est arrivé. Oui, vous avez raison. C'est un vrai enjeu. La question de savoir si le Parti Socialiste, qui s'était effondré très clairement, a pu survivre malgré cet effondrement à la dernière présidentielle et malgré le fait que Macron, issu plus ou moins, non pas des rangs du Parti Socialiste, mais disons issu du gouvernement social-démocrate de François Hollande, eh bien, Emmanuel Macron, est-ce qu'il avait, dans le fond, éradiqué l'existence de la gauche social-démocrate, autrement dit de la gauche social-libérale, pour dire les choses plus clairement? Est-ce que cette gauche-là a été inéluctablement absorbée par la grande coalition des modérés, ou est-ce qu'elle pouvait maintenir son indépendance? Il semblerait quand même, et ça c'est tout à fait instructif, que elles réussissent, pour l'instant en tout cas, à maintenir une certaine existence et une certaine indépendance. Ce qui est peut-être moins clair pour la droite modérée, dans la mesure où effectivement il y a eu un glissement de la Macronie, disons du centre-gauche au centre-droit, et que les derniers gouvernements et les derniers ministres en vue de la Macronie étaient plutôt des gens de droite, type Bruno Retailleau. Ce qui fait que la gauche a réussi, comme par enchantement, alors que la Macronie est issue de ses rangs, la gauche modérée a réussi à, non pas faire oublier qu'elle était à l'origine de la Macronie, mais que, elle pouvait préserver une certaine indépendance. Moi, je trouve ça assez, comme tour de prestidigitation, je trouve ça assez intéressant. Et quand on regarde les enquêtes d'opinion, alors, on parlera peut-être un jour, je dirais, de toutes les limites qu'il faut avoir en tête pour prendre avec des pincettes ces enquêtes.
Ce sera un excellent débat, Guillaume.
Voilà. Mais il n'empêche que, dans le fond, l'espace politique de la gauche modérée semble plus réel que l'espace politique de la droite modérée, et que finalement la grande coalition macronienne, la grande coalition des modérés, se soit un peu plus déplacée sur le spectre politique vers le centre droit, et que la droite modérée a plus de difficultés à émerger que la gauche.
Après, alors, la gauche modérée, c'est aussi a aussi réussi à faire oublier qu'elle était l'origine du macronisme, parce que elle s'est fait un petit peu justement dégager au profit des profils plus à droite dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on rappelle que c'est grâce ou à cause des socialistes, du groupe socialiste et on va dire des compétences de stratège Olivier Faure, que la réforme des retraites d'Emmanuel Macron a été enterrée d'un coup sec. Donc, et pendant ce temps, des gens comme Bruno Retailleau restaient dans le gouvernement de François Bayrou. Pendant ce temps, Édouard Philippe, le groupe Horizon d'Édouard Philippe, continuait d'être un supplétif de la Macronie à l'Assemblée nationale et votait encore sensiblement la même chose. Le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron a tout de même été beaucoup plus dommageable pour la droite que pour la gauche, en quelque sorte, en matière de liens.
Absolument. En matière électorale et en matière de visibilité, d'indépendance, c'est incontestable. Ce qui fait que aujourd'hui, le bloc central, comme on dit, la grande coalition des modérés, existe toujours. Et j'insiste régulièrement sur le fait que ce n'est pas parce que Emmanuel Macron est aujourd'hui honni que pour autant cet espace politique a sociologiquement et idéologiquement disparu. Mais la droite modérée semble plus arrimée. Et d'une certaine manière piégé par le macronisme que ne l'est la gauche modérée. Bon, après, évidemment, il est certain que le pari ne sera réussi que s'ils arrivent à être devant Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour, ce qui est loin d'être gagné dans la mesure où, on le voit, la seule dynamique politique qui existe aujourd'hui, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Ça n'est même pas celle de Marine Le Pen, puisque quand on regarde les dernières études, depuis un mois et demi, elle est avec des résultats qui se tassent. Alors, elle a une telle avance par rapport aux autres que, a priori, ça n'est pas pour l'instant dommageable, mais la seule dynamique qui existe aujourd'hui, la seule progression, le seul homme politique qui progresse et qui progresse au-delà de ce qu'on appelle les marges d'erreur dans les enquêtes d'opinion, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Valentin Gore.
Oui, monsieur, je vous entendais parler des héritiers du macronisme. Alors là, s'il y a des candidats qui se tassent, ce sont bien eux. Je pense en particulier à Édouard Philippe et Gabriel Attal. Ressurgit cette idée d'une primaire, idée un peu vague, serpent de mer, qu'on entend depuis un an et demi déjà, qui ne surgit pas pour l'instant, mais dont on voit bien qu'elle pourrait devenir en réalité l'unique moyen de départage. Est-ce que vous en voyez d'autres ? Je pense notamment par exemple au fameux conclave qu'a proposé cette semaine Michel Barnier sur France Inter.
Alors moi je suis plutôt favorable au conclave, mais dans une autre institution, celle de l'Église catholique. Sincèrement, je ne vois pas très bien comment les égaux personnels pourraient accepter, sauf à trouver véritablement des accords. Comment les égaux personnels pourraient être 8 mois avant la présidentielle, être véritablement mis en commun, enfin réussir à ce qu'ils soient abaissés. Non, il y a qu'on le veuille ou non, c'est entré dans les mœurs politiques depuis maintenant une quinzaine d'années. Ça n'était pas la tradition française, mais ça a fonctionné. Il suffit de se souvenir de la participation de 4 millions de personnes à la primaire de la droite en 2016, hein, celle qui avait finalement désigné François Fillon. Non, il n'y a que la primaire qui a véritablement qui donnerait véritablement un avantage à un candidat. Et donc, toute la question, évidemment, est de savoir est-ce que la droite modérée, Lisnard, Retailleau, est-ce qu'ils accepteront de participer ou non à cette primaire pour désigner un candidat qui puisse espérer arriver au second tour, parce que vous mettez le doigt évidemment sur un point essentiel. Aujourd'hui, on a 3 ou 4 blocs politiques. Je parlerai plutôt de camp pour ma part, parce que qui dit bloc dit véritablement unité. Or, aucun de ces blocs ne connaît véritablement l'unité, hein. Que ce soit chez les nationaux populistes, il y a la question du souverainisme qui divise, que ce soit dans le bloc central, il y a la question notamment des relations aux internationales qui divisent, que ce soit à gauche, il y a d'autres raisons. Bon, enfin, en tout cas, parlons plutôt de camp. Il est clair qu'il n'y a que 2 places au second tour de la présidentielle et que, évidemment, on ne peut espérer atteindre le deuxième tour qu'en présentant pour chacun des camps un candidat principal. Alors, il y aura sans doute une pluralité de candidats dans les différents camps, et la question, c'est de savoir est-ce que le vote utile bénéficiera au principal candidat de chacun de ces camps. C'est vraisemblable, c'est pas forcément automatique pour chacun des camps. Pour Marine Le Pen, a priori, ça devrait fonctionner, encore que, on verra bien. Pour Jean-Luc Mélenchon, a priori, c'est très clair, ça lui bénéficiera. Pour la gauche modérée et la Macronie ou le centre, là, pour l'instant, ils n'ont pas d'autre solution que de désigner un seul candidat via une primaire.
Est-ce que ce candidat dont vous parlez, Guillaume Bernard, pourra et doit se faire oublier justement la personne d'Emmanuel Macron ? Parce que c'est un petit peu la question. Ils lui doivent tous plus ou moins une légitimité politique. En tout cas, Édouard Philippe était certes déjà maire du Havre, mais est devenu un personnage de premier plan grâce à Emmanuel Macron. C'est même Sébastien Lecornu, même Bruno Retailleau dans une certaine mesure. Est-ce que on peut aujourd'hui penser être élu président de la République en 2027 en portant, en tout cas en portant sur ses épaules, oui, une partie au moins de l'héritage d'Emmanuel Macron?
Alors, ils vont avoir évidemment du mal à s'en départir. Ils vont tous essayer de jouer ce que Lionel Jospin avait dit, c'est-à-dire, oui, on appartient à un camp politique, mais on a le droit d'hériter avec le sous bénéfice d'inventaire. Mmh. Donc, ils vont essayer évidemment de se désolidariser d'un certain nombre de choses. Ça va être compliqué et c'est sans doute ce qui explique que eh bien, ce soit justement les deux bord extrême du spectre politique qui est le plus devant en poupe aujourd'hui, parce qu'ils n'ont évidemment pas été des collabos ou des courroies de transmission de la Macronie pendant les deux derniers quinquennats.
Mmh. Est-ce que, donc on voit bien d'ailleurs ce jeu qui est en train de se faire, on l'avait beaucoup vu en 2022, on avait vu Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon un petit peu en tandem justement recréer cette espèce de clivage gauche-droite, mais on va dire bien plus radical au sens étymologique que ce qui se pouvait se voir avant. On a vu que Jean-Luc Mélenchon jouait à fond cette partition-là en 2027, mais on voit effectivement que Marine Le Pen refuse de rentrer dans ce jeu, on va dire, dans cette espèce de clivage, j'allais dire sociétal, mais civilisationnel en fait.
Oui, alors moi,
je vous dis ça, il y a eu la polémique sur le voile entre-temps, donc c'est peut-être un peu modéré.
Ça n'empêche qu'elle est toujours effectivement dans sa stratégie, pensant que pour capter un électorat qui se pense de gauche, eh bien, il faudrait justement avoir des items dans son discours ou avoir des marqueurs feraient des concessions à cet électorat. Ce qui est tout à fait étonnant, enfin, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce qu'il a fait progresser aujourd'hui, et je suppose qu'auprès d'elle, elle a quand même des personnes de qualité qui savent lire les enquêtes d'opinion. Aujourd'hui, quand Marine Le Pen progresse, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un petit tassement du résultat global, mais là où elle progresse, c'est parmi les femmes et parmi les classes moyennes supérieures, diplômées. C'est-à-dire deux électorats qui étaient a priori les plus fermés au vote FN, puis au vote RN. Autrement dit, ce qui l'a fait progresser, c'est la porosité électorale, c'est le décloisonnement entre la droite modérée et la droite nationale. Et par conséquent, je dois avouer que je suis estomaqué par l'entêtement stratégique de Marine Le Pen. Peut-être que, eh bien, au final, elle finira par l'emporter, mais je ne crois pas qu'elle finira par l'emporter grâce à sa stratégie. C'est plutôt en dépit de sa stratégie qu'elle risque de l'emporter ou qu'elle pourrait éventuellement l'emporter.
Il y a un secteur, vous avez parlé des femmes et des classes moyennes supérieures, il y a un secteur de l'électorat dans lequel elle a totalement décroché, au trait dans lequel le Rassemblement National a totalement décroché, c'est celui des jeunes, puisque les de 18 à 24 ans, je parle sous le contrôle de Valentin qui l'a peut-être plus dans la tête que moi, mais les jeunes votent à 40% pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'arrive qu'en 3e ou 4e position de mémoire. Comment, à quoi vous attribuez cette absence, justement ce décrochage de Marine Le Pen chez les jeunes?
Alors, l'électorat jeune, il ne vote pas en raison de son âge à droite ou à gauche. En revanche, il a une propension à voter radical. Plus on vieillit, plus on est susceptible de se modérer. Ça ne veut pas dire qu'on se modère automatiquement, mais enfin, en tout cas, on est plus susceptible de se modérer. Dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon apparaît comme étant le candidat transgressif sur tout un ensemble de sujets, et dans la mesure où lui joue le jeu, je dirais, des influenceurs de gauche, des médias alternatifs, alors que Marine Le Pen, elle, se contente de faire une campagne très, je dirais, mainstream, eh bien, dans ces conditions-là, évidemment, ben, on s'aperçoit que l'électorat jeune, qui a une certaine propension à voter aux extrêmes parce que c'est transgressif, eh bien, se reporte sur celui qui apparaît comme étant le plus anti-système. Je dis bien anti-système avec des guillemets, parce que nous n'avons aucun candidat réellement anti-système. Ils sont tous dans le système, hein, évidemment.
Valentin Gore.
En vous écoutant tous les deux, je me faisais cette observation. C'est la première fois depuis, c'est sa 4e candidature, mais c'est la première fois que finalement Marine Le Pen va se retrouver pas toute seule sur son créneau, mais en tout cas très largement majoritaire, parce que pour l'instant on voit pas très bien la candidature Reconquête faire un score, on voit pas non plus les LR de Bruno Retailleau l'embêter beaucoup, donc paradoxalement elle est un peu toute seule au milieu de cette mer qu'est la droite radicale, la droite nationale pardon, pas forcément radicale, une partie radicale, une partie moins. Est-ce que ça n'est pas paradoxalement un problème, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment de flotteurs sur lesquels s'appuyer ensuite pour le second tour?
Alors c'est sûr qu'évidemment vous mettez le doigt sur le fait que elle a moins éventuellement de réserves de voix que d'autres candidats qui eux pourraient ne serait-ce que par dépit de la part des électeurs obtenir le soutien d'autres espaces politique. Il est clair que aujourd'hui, d'une certaine manière, le fait qu'elle soit le candidat favori, eh bien, peut l'handicaper. Ça peut l'handicaper parce qu'il peut y avoir une démobilisation d'une partie de son électorat. Ça peut l'handicaper parce que ça peut éventuellement, mais pour l'instant, on n'en voit pas le bout du nez. Conduire à des candidatures parasitaires qui pourraient, je dirais, grignoter son socle électoral. Et puis, ça pourrait surtout, et c'est ça, à mon avis, le principal danger, la conduire à oublier qu'on est au second tour quand on a passé le premier tour. Autrement dit, de faire l'erreur stratégique de Lionel Jospin en 2002, de faire au premier tour une campagne de second tour. D'oublier qu'il faut d'abord rassembler un camp, puis ensuite l'élargir en étant en capacité de capter ce qu'on appelle l'électorat flottant. Ça, c'est un vrai danger pour elle, de faire une campagne de second tour au premier.
On a vu que, en tout cas, dans tous les sondages sont unanimes. Marine Le Pen est gagnante au second tour, quel que soit le candidat, que ce soit de très largement face à Jean-Luc Mélenchon, mais que ce soit Gabriel Attal, Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau ou François Hollande, dans tous les cas, elle gagne. C'est la première fois quand même qu'on a une telle unanimité chez les sondages concernant Marine Le Pen. Pour vous, c'est pas joué pour autant?
Ah non, c'est pas joué. D'abord parce que des sondages de deuxième tour très en amont du scrutin, c'est quand même relativement aléatoire. Il y a beaucoup de gens, si les hommes politiques sont rentrés dans la campagne, il y a beaucoup de Français qui soit ils vont à reculons, un peu comme moi, je ne vous le cache pas, soit ne s'y intéressent pas du tout et commenceront à s'y intéresser.
En janvier, février. Pardon de vous couper, Guillaume, mais simplement, on a tous été un petit peu impressionnés par le nombre de téléspectateurs présents devant les rencontres du MEDEF. Il y a eu plus d'un million de téléspectateurs qui ont suivi cela. Ça a été interprété effectivement quand même comme le signe que même si vous avez raison, une immense majorité des Français, et c'est tout à fait remarquable, et c'est la preuve qu'ils sont assez sains d'esprit, ne s'est pas encore mis totalement dans cette élection présidentielle. Mais on voit en tout cas que cette élection va susciter un intérêt particulier parce qu'on ce sera de toute façon la fin de 10 ans de macronisme, dans tous les cas.
Oui, d'accord. Mais un million, quand vous avez tous les candidats et donc tous les affidés de ces différents candidats qui sont devant le poste, c'est pas la même chose que si un candidat seul, interrogé par des journalistes, le réunirait ce million-là. Donc moi, je suis un peu moins enthousiaste que vous, ou du moins dans les commentaires, par rapport aux commentaires qui ont pu être faits. C'est pas plié pour Marine Le Pen, parce qu'encore une fois, ça va dépendre des résultats réels du premier tour. C'est-à-dire que quand on nous dit que c'est du 65-35 face à Jean-Luc Mélenchon au second tour, tout dépend du score que Mélenchon fait au premier tour. Et l'écart qu'il y aura entre Jean-Luc Mélenchon qui aurait éventuellement accédé au second tour, et les autres candidats. S'il écrase les autres candidats, il obtiendra le ralliement des électeurs de ces autres candidats beaucoup plus facilement que s'il ne passe au second tour avec quelques points d'avance. Et puis, ça dépendra aussi, pardon de le dire, et je veux heurter personne, mais enfin, ça dépend aussi du score que Marine Le Pen fera au premier tour. Elle avait déjà été donnée à 31, 32, 33% en 2022. Elle a fait 10 points de moins. Là, elle est donnée à entre 35 et 37. Bon, on verra bien si elle fait effectivement ce score-là. Dernier point, face à Édouard Philippe, elle est donnée gagnante à 52 contre 48, c'est-à-dire que là, on est dans la marge d'erreur. C'est-à-dire qu'effectivement, face à d'autres candidats, on n'est pas dans la marge d'erreur. Et si tant est que le sondage soit réaliste, a priori, en étant au second tour, elle devrait l'emporter. Face à un candidat centriste capable de rapatrier des voix venant de la droite modérée comme de la gauche, avec le fameux système, je dirais, des castors, hein, le fameux système du cordon sanitaire, là, pour le coup, sur cette configuration-là, elle est donnée vainqueur, mais les résultats sont donnés dans la marge d'erreur, donc ça n'est pas encore un résultat certain.
Valentin Gore.
Écoutez, il reste 2 minutes, alors j'ai presque envie de faire cette question qui est un peu de la politique fiction, mais je me disais que Emmanuel Macron doit beaucoup regretter la révision constitutionnelle de 2008, parce qu'on se dit qu'en dépit de tout, si aujourd'hui il pouvait être candidat, il est assez certain qu'il ferait mieux, voire beaucoup mieux, que tous les petits camarades qui veulent lui succéder au sein du Bloc central. Il est très probable, imaginons un instant qu'il puisse se présenter pour un troisième mandat, qu'aujourd'hui les instituts de sondage le placeraient peut-être pas toujours au second tour, mais en tout cas vraiment pas dans des étiages très similaires à ceux de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, c'est assez vraisemblable, surtout s'il prend la figure de l'homme providentiel chef de guerre. C'est une des hypothèses qui est envisagée par certains analystes. Mais pourquoi ne présenterait-il pas à la présidentielle son épouse? Et pourquoi ça ne serait pas Brigitte Macron qui le remplacerait?
Tiens, oui, mais quelle bonne idée, Guillaume. Oui, on imagine. Bah, ceci
allez
dit...
savoir.
Ouais, bah, ceci dit, il y a eu une très belle fiction mettant en scène Nicolas Sarkozy et François Hollande essayant de se présenter à deux contre Emmanuel Macron et avec leurs épouses respectives. C'est un très bon film à voir. Jean Dujardin, absolument. Dernière question, Guillaume Bernard, allez, en une minute. Jean-Luc Mélenchon, tout le monde dit que c'est un petit peu inversé cette fois-ci, que toute personne, de toute façon, au second tour face à Jean-Luc Mélenchon est assurée de gagner l'élection présidentielle. Bon, déjà, il y a presque une lepénisation de Jean-Luc Mélenchon d'un point de vue électoral qui est assez intéressante. Mais surtout, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a 0% de chance d'être élu à l'élection présidentielle, Guillaume Bernard?
Mais non, bien sûr que non. Il peut parfaitement l'emporter. Et vous savez que j'ai écrit pour Valeur un papier qui n'est pas valu que des amis, dans lequel j'évoquais l'éventualité que juridiquement, il ne puisse pas y avoir de bulletin RN au premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, considérer que Jean-Luc Mélenchon est de toute façon battu, moi, tant que la fin du match n'est pas sifflée, il faut ou garder espoir, ou en tout cas, de toute manière, considérer que les jeux ne sont pas faits. La messe n'est pas dite. Et alors, pour le coup, ça pourrait peut-être rendre cette campagne un peu plus intéressante. Parce que le débat devant le MEDEF, c'était quand même extrêmement épuisant. Chacun dans son couloir qui essayait de satisfaire et de flatter son électorat, c'était un peu pénible.
Merci beaucoup Guillaume Bernard d'avoir été avec nous pour cette première, pour ce premier Restons Courtois du jeudi de rentrée. Merci Valentin Gore,
merci
pour
Marc.
Votre fidélité. Merci à nos amis de la technique et à nos amis du secrétariat. Et merci surtout à vous, chers auditeurs, d'être aussi fidèles à cette émission. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. J'arriverai un petit peu plus tôt pour être un peu plus reposé pour le début d'émission. À jeudi.
Ça suffit maintenant.